Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir, en fait, pour cette soirée du cycle, cette troisième rencontre du cycle Matière à penser. Nous avons choisi, en fait, de donner la parole à Nathalie Béas, qui est metteur en scène, hein, qui est artiste et qui est fondatrice de la compagnie Nathalie Béas. Et à, bien évidemment, Aurélie Mouton-Rézouk, qui est professeure et qui est maître de conférence en études théâtrales à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, n'est-ce pas Aurélie? Et qui a conçu ce cycle avec la BPI. Donc nous avions reçu au premier trimestre Christian Jacob, puis Denis Guénoun, et maintenant Nathalie Béas, pour parler de la manière dont les artistes, les penseurs, les intellectuels pensent dans leur art, voilà, et avec leur art, avec leur technique. Et donc je vais laisser Aurélie présenter à la fois le cycle, son propos, et bien évidemment conduire cet entretien avec Nathalie Béas. Merci.
Merci Emmanuel. Alors le cycle Matière à penser, tu as rappelé que c'était notre troisième rencontre, part d'une hypothèse. Et cette hypothèse, c'est que le geste artistique, et plus généralement l'acte créateur, est une forme de pensée, que le geste pense, que la matière pense. Et quand on dit matière, on évoque d'une manière plus générale des lieux, des modalités de travail, mais aussi de la matière au sens du matériau, des moments, des gestes. Nous nous sommes appuyés au départ, où ça rentre en écho avec un propos de Foucault qui, dans un entretien de 66, à propos de philosophie, il disait de la philosophie qu'elle se dissout aujourd'hui dans toute une série d'activités de pensée. Il disait que ces activités de pensée tiennent lieu de philosophie, non pas qu'elles prennent la place de la philosophie, mais, disait-il, elles sont le déploiement même de ce qu'était la philosophie. Alors cette idée, hein, que nous avons rappelée au début de chacun de ces entretiens, explique le choix que nous faisons de recevoir des artistes, mais aussi des professionnels, qui viennent raconter comment ça pense par chez eux. Alors l'idée, bien sûr, n'est pas d'aller chercher nécessairement des artistes ou des professionnels qui font profession de philosophie, qui viennent illustrer d'une manière ou d'une autre une pensée philosophique, mais qui viennent expliciter la manière dont ça va penser, la matière qui pense, en l'occurrence au plateau. Alors, nous avions invité Christian Jacob, l'historien, dans la première séance, Denis Guénoun, homme de théâtre et philosophe, dans la seconde. Et puis, nous n'avions pas eu tout à fait assez de théâtre. Nous avions aussi un désir plus grand de parler de matière. Alors, voilà le pourquoi de cette invitation à Nathalie Béas. Nathalie, tu es metteur en scène, mais d'une certaine manière, ce mot peut-être ne suffit pas à expliciter ce que tu es et ce que tu fais. D'autres mots reviennent, la scénographie, les arts plastiques, la performance. Peut-être peux-tu, pour commencer, nous raconter un peu ton parcours artistique et la façon dont tu définis ce que tu fais.
Bonsoir à tous. Alors, c'est tout un programme, hein, tout ça. Donc, c'est vrai que je ne suis pas que metteur en scène. Je viens des arts plastiques, j'ai fait les beaux-arts. Et je voulais plutôt travailler l'image et faire de la réalisation ou voilà, des films. C'est ça mon premier désir au moment où j'étais aux beaux-arts. J'avais envie de faire du cinéma. Et puis j'ai découvert la performance avec un échange en Allemagne sur le performing art. Et puis j'ai découvert en fait que j'avais un corps. et que j'avais un corps qui était là, dans un espace qui pouvait... parce que le Performing Art, c'était l'école des beaux-arts à Braunschweig, HBK, où il y a une section jeux et scènes, et qui était plus ou moins dirigée par Marina Abramovic, donc performeuse des années 70, et puis qui est toujours vivante et qui fait toujours des magnifiques choses. Et donc, gros travail autour du corps et... surprise, ce rapport à l'espace, au corps. Donc je suis revenue après en France et je ne pouvais plus imaginer être seulement derrière une caméra ou derrière un appareil photo. Il fallait que j'agisse en fait, que je remplisse l'espace de gens et d'objets et de lumière et de mouvements et de tout ça quoi, et voilà, et j'ai continué en fait à creuser ce chemin là après les Beaux-Arts en faisant 2 ans conservatoire en art dramatique, et puis en fait je voulais pas être comédienne non plus, et puis après j'ai monté une compagnie voilà, et en réunissant acteurs, danseurs et musiciens, et puis en essayant de raconter des histoires, en mettant au même niveau tous ces éléments scéniques, à la fois lumière, son, corps, texte, voilà, tout est partenaire de jeu. Pour moi, il n'y a pas de classification de théâtralité ou de danse, ou de, j'essaie d'enlever tous ces codes-là, et puis d'écrire des choses, d'écrire des histoires, quoi. Voilà. Donc je sais pas si
cette question de la classification, en même temps, c'est quelque chose à quoi on se heurte perpétuellement quand on souhaite être programmé, quand on est programmé, quand tu essayes de définir plus spécifiquement ou d'expliciter ce dont relève ton travail. Ouais. Tu parles d'un tout organique et pourtant il faut parfois arriver à...
C'est toujours très compliqué, oui, très compliqué, surtout en France en fait. Il faut faire partie du spectacle un peu de transversalité, ou la page 40 du spectacle OVNI, du programme de tel ou tel théâtre. Voilà, et puis est-ce que on met chorégraphe ou metteur en scène ou scénographe ou voilà, je me sens autrice. Voilà, c'est plus... ouais, c'est très compliqué. Je trouve qu'en France, c'est très compliqué de ne pas être, enfin, de ne pas rentrer dans une case. Et moi, j'essaye de résister à ne pas rentrer dans ces cases-là. Et de toujours... et peut-être plus tard, de faire un film, et pourquoi pas une expo, et pourquoi pas... Enfin, voilà, de toujours inventer, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est inventer, c'est transformer les choses, c'est creuser un chemin, mais de diverses manières, et pas forcément théâtrale ou chorégraphique.
Alors, on peut peut-être commencer à montrer un teaser de l'un de tes spectacles qui s'appelle Happy Child.
Are those days just chase where did they go? They shuffle throughout our way. Are those days, those days they follow us home and peer through our window and never hear? And all our hoping, are those nights they tiptoe by, they crackle under our pillow, and never hear, never yesterday's tomorrow. There are yesterdays to my home. There are yesterdays to my home. And they're here and still we try to reach for what is gone behind.
Tu le disais à l'instant, tu te penses comme autrice, d'où l'écriture, hein, cette écriture alors qu'on caractérise comme une écriture de plateau. Peut-être que tu pourrais revenir sur la façon dont tu travailles, sur le processus de création et sur cette organicité que tu évoquais dans le travail au plateau.
Alors oui, c'est un travail très intuitif, très lié à des choses de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire que je suis dans une... Quand je crée, je suis dans une hypersensibilité à tout ce que je vois, je ressens, je suis à l'écoute du moindre mouvement, de la moindre couleur, de la résonance qu'il y a sur un son par rapport à un corps. Voilà, tout est prétexte à jouer en fait. Mon processus de création, c'est pas, il y a pas de recette en fait. Chaque jour est différent dans les répétitions. J'amène beaucoup d'éléments. Je dis souvent aux acteurs de me laisser rêver en fait, de ne pas proposer, mais d'être là, disponible et d'être dans un lâcher prise, dans un lâcher, ouais, dans un laisser aller, dans... Donc on a un rapport, il rentre complètement dans mon univers en fait. C'est un univers très, à la fois très plastique, très musical, sur le rythme, sur des thématiques que je creuse, que je continue de creuser, sur la matière, elle est présente dès le début, la matière, le costume, le décor qui, c'est des simples rideau ou un objet, une table, un fauteuil. C'est très très peu d'éléments pour raconter plein de choses en fait. Je suis pas du tout dans le réalisme, je suis plus dans des choses métaphoriques. Et puis comment avec ces espaces vides, ces espaces pleins, comment on déplace les acteurs, enfin comment sur un mouvement répétitif, on raconte quelque chose. C'est à la fois très physique et parfois très contemplatif. C'est sur le temps qui passe, c'est sur la poésie, c'est sur des poèmes. C'est très fragmenté. Mon travail, mon processus de travail, il est très fragmenté et très métaphorique et très poétique. J'arrive et je travaille sur un poème et le lendemain c'est un autre poème. Ou une fresque, et le lendemain, c'est une autre fresque. Et j'essaye après, au fur et à mesure, d'emboîter ça. Donc c'est un peu complexe à expliquer, quoi. Mais c'est... voilà, on n'est pas autour d'une table et autour d'un texte. On est autour d'un espace, on est autour du corps de l'autre, on est autour d'un rideau, on est autour d'un costume, on est autour de... Et on est avec, aussi, tous ces éléments-là. Donc c'est... C'est jouer, en fait, c'est prendre le plaisir de jouer, à jouer et à montrer le jeu, et puis à essayer de retrouver l'enfant qui est en nous, quoi. Parce que ça parle beaucoup aussi de ça, de l'enfance, mon travail. Donc, mon travail se fait beaucoup dans cette construction très ludique. D'un élément un peu à art pauvre, arte povera, où on va mettre une branche et puis à côté on va faire couler de l'eau et puis il y a un papier qui va s'envoler et puis ça va déjà raconter une histoire, quoi. Donc c'est des éléments à la fois plastiques mais à la fois avec une autre dimension, quoi, et avec plusieurs nappes successives de compréhension. Donc j'essaye de créer des images assez vastes pour que le public puisse se plonger dedans, puisse se raconter lui-même sa propre histoire. Donc c'est plus un travail de suggestion plutôt qu'un travail j'impose rien, j'impose pas une histoire, je... Donc le processus, il est différent. Enfin, il n'y a pas une manière de travailler. Il y a des manières de travailler en fait. Et sur chaque spectacle, c'est différent. Sur un spectacle, on va passer peut-être une semaine, voire deux semaines à enfin, je vais demander aux acteurs de courir sur place pendant une journée entière, voire deux, voire trois, et puis dans des couloirs différents, dans des parkings, et puis les voir courir comme ça, je vais inventer des choses autour de ça, quoi. Donc ça part à la fois du corps, ou alors ça part vraiment d'un rideau, comme là, dans Happy Child, un rideau en moumoute, qui, avec des serres, là, des cornes de serres, eh bien, une chaise et une posture, enfin, quelqu'un qui est devant, et puis ça nous fait rentrer dans un intérieur, alors qu'il n'y a pas du tout de décor réaliste. Voilà, c'est très pictural aussi.
Je crois que cette question du lâcher-prise, elle est très importante dans ton travail. Tu évoques ce lâcher-prise que tu demandes aux comédiens. Ça ne doit pas être simple d'être comédien avec Nathalie Béas. C'est sans doute à eux qu'il faudrait le demander. Donc un lâcher-prise qui est celui du comédien, mais en même temps, tu évoques cette alternance du vide et du plein, ce beaucoup que tu apportes au plateau, et puis cette esthétique effectivement très dépouillée qui reste au plateau, qui caractérise ton espace scénique. Ça consiste à apporter beaucoup, puis à lâcher,
oui.
À lâcher beaucoup.
Oui, oui, oui. Oui, c'est du plein. Oui, j'ai beaucoup. C'est rempli. Mes valises sont remplies. Et j'adore enlever. Oui, c'est beaucoup de construction et après de destruction. Je m'amuse à détruire les choses que je construis. Mais c'est vrai qu'en tant que comédien, il faut être disponible à ça. À ce qu'on peut inventer des scènes et puis qu'à un moment donné, on les aura pas au spectacle puisque le rythme, tout ça, c'est... Mais ça fait partie d'une mémoire, en fait, une mémoire traversée. Donc c'est vrai que... Mais c'est... Enfin... Pour moi, la période de répétition est une période très jubilatoire. C'est vraiment un moment intense puisque on invente, on se métamorphose, on se transforme, on creuse, on va au-delà des, on est sans limite en fait, même physique. Et enfin, ça c'est. Je trouve qu'il y a une liberté, en fait. J'essaie de... Justement, parce que je travaille beaucoup sur la frontière entre tragicomique et puis sur le débordement, le dépassement de soi-même, sa place vis-à-vis d'un autre, vis-à-vis du groupe, et comment on peut dépasser... comment on peut exprimer les choses, mais pas par le texte, pas par un mot, mais par le corps, ou par un simple mouvement, ou par du vent dans les arbres, non, du vent dans les rideaux. Enfin, voilà, c'est assez cinématographique quand même. Parce que c'est comme si j'avais envie que le public se fasse lui-même, sans que je le dirige, ses propres focus. Donc tout est très éclairé. Je ne fais pas des gros plans avec des projecteurs, et puis vous allez regarder ça. Non, tout est très éclairé. Et il y a souvent des scènes en hors champ, ou deux scènes en même temps, et qu'est-ce qu'on regarde, et c'est beaucoup sur la perception aussi du spectateur, et où va aller son regard, quoi. Et on ne va pas forcément sur la première scène en avant-plan. Il y a d'autres scènes qui se passent au fond. Enfin, c'est sous tout ce travail-là de mise en abîme qui m'intéresse, et la lecture qu'on peut en faire. Enfin, voilà, s'il y a 100 personnes dans la salle, il y a 100 histoires différentes, et je trouve ça assez passionnant, en fait, de travailler sur cet imaginaire-là, cette ouverture, ces portes qui s'ouvrent sur d'autres dimensions, et sur l'invisible.
Alors on va revenir sur la question de la matière de façon très, très concrète. Peut-être qu'avant, on pourrait regarder quelques images de le bruit des arbres qui tombent.
Oui.
Il y avait autrefois une famille qui vivait à l'écart du monde dans un lieu que je connais bien.
Je ne m'amuse plus comme avant. Ça fait plusieurs mois déjà. C'était l'automne. Maintenant, j'ai mal et je ne joue pas. Je ne sais pas pourquoi. On était bien ensemble.
Alors je le disais tout à l'heure, le motif premier peut-être incitatif de cette invitation, c'est ton rapport à la matière, au plateau. Alors quand on parle de matière, c'est de la glaise, c'est du plâtre, ce sont des liquides, ce sont des gaz, des vapeurs. C'est une présence extrêmement forte de texture, mais aussi de volume et de rythme. Il y a plusieurs façons de décrire ce que fait la matière. Elle donne souvent l'impression d'agir de son propre chef et de répartir la capacité d'agir entre les humains et ce qui n'est pas des humains. Tous ces matériaux sont autant d'éléments, tu le disais tout à l'heure, de ton écriture dramatique. Il me semble d'ailleurs que Sans dévoiler trop de choses, mais ton dernier spectacle commence par cette idée de la matière et par l'évocation de la construction ou de la destruction. D'ailleurs, on ne sait pas très bien, mais les choses se passent en partie hors champ. Donc, on est tout à fait dans cette suggestion, mais qui va passer par la présence parfois infime et pourtant très, très forte, très expressive de la matière, des matières au plateau. Alors, peut-être que tu peux parler un peu de ça, de ces matières, de celles qui te plaisent, de celles qui font un retour quand même assez obsédant au plateau, d'un spectacle à l'autre. On a tendance à retrouver certains matériaux que tu réamènes à chaque fois comme autant de possibilités ou de suggestions de quelque chose qui peut se développer.
Alors oui, la matière, comme la terre, comme l'argile, qui est aussi de la terre, c'est des matières nobles. Enfin, pour moi, j'aime beaucoup parler de nature et de son rapport à l'instinct primitif, hein, l'origine dans mon travail. Donc en fait, c'est beaucoup une matière assez symbolique qui crée, et comme la chair aussi. Enfin, dans okay. Tout semble être immobile, il y a beaucoup, enfin, il y a un travail sur la chair, mais dans les autres spectacles aussi, le corps, enfin, ouais, la chair, la peau, le bide. Voilà, c'est des gens avec des chairs. Et ça, c'est de la matière aussi, de la matière à jouer. C'est-à-dire un corps devient un paysage, un plateau devient un paysage. Pour moi, je travaille beaucoup en extérieur. Chaque début de spectacle est créé en extérieur, dehors. Le bruit des arbres qui tombent a été créé à côté de Saint-Marc-la-Plage, à côté de Saint-Nazaire, donc autour de Saint-Nazaire, dehors. Et on a fait des trous avec des pelles et la terre qui sortait comme ça. Pour moi, c'est vraiment un texte. C'est vraiment... C'est mon verbe, quoi. Sujet, verbe. Enfin, voilà, j'ai la lumière et le sujet, la matière et le verbe, l'adjectif et le son. Voilà, c'est vraiment mon texte, c'est vraiment toutes ces matières-là. Et c'est vrai que l'eau aussi, donc l'eau, la terre, c'est des éléments très simples, hein. Et puis après, l'objet aussi, enfin, dans mon premier spectacle qui s'appelle Trop plein, il y avait de l'eau, c'était des chutes d'eau pendant tout le spectacle. Il y avait une chute de matelas aussi. C'est des choses... c'est pas par hasard, hein, c'est pas des objets qui sont là par hasard, quoi. C'est souvent aussi des objets qui sont en lien avec son rapport à la famille, au quotidien, à sa solitude. Voilà, c'est pas des objets ou des matières comme ça pris au hasard. Ouais. C'est vraiment et qu'on peut tisser les unes aux autres et construire une maison, en fait. Parce que je crée comme si je fabriquais une maison. Je parle beaucoup en images, hein, mais c'est comme ça, je viens de là, donc je parle avec mes mots, avec ma vision des choses. Je suis très inspirée aussi par les Indiens d'Amérique du Nord, donc je lis beaucoup de poésie des Indiens parce qu'ils me causent vraiment, parce qu'ils décrivent beaucoup les choses avec des images. Et donc, je monte une maison à chaque fois que je fais un spectacle. Les fondations, c'est toutes ces choses qui tombent et qui créent du mouvement et qui créent des parois invisibles, mais qui sont là, en fait. Tout est là au fur et à mesure. Rien n'est là au début et après, tout se construit dans le chaos, enfin dans la destruction, parce que c'est souvent ça en fait, tout est bien, bien propre, on est dans une sorte de posture, et puis il y a des choses qui se...
Ce motif de la cosmogonie revient, oui, effectivement beaucoup. Alors dans la matière textuelle, oui, dont tu t'empares, tu as parlé de ces poèmes indiens. Oui. Et en effet, c'est une cosmogonie que tu as évoquée comme la construction d'une maison et qui tient aussi beaucoup de son explosion ou de sa destruction ou de son passage vers l'invisible. Tu as évoqué ça tout à l'heure. La chute est un motif récurrent. Oui. Dans ton travail, ça ne cesse de choir de partout. Les corps tombent, les arbres tombent, et ça tombe des cintres véritablement beaucoup. Alors tu as évoqué la façon dont ça structure un espace aussi bien visible qu'invisible. Et qu'est-ce que ça raconte de plus ?
Alors, je travaille beaucoup sur la rupture aussi, sur comment aussi rythmiquement et puis au niveau du son aussi, quand les choses tombent, quel son ça provoque et comment on peut passer d'un son à un autre et la chute. J'aime parler de l'humain, en fait. Mon travail, il est beaucoup autour de l'humanité. C'est-à-dire que voilà. Je ne m'installe pas autour d'une table avec les acteurs au début du travail en me disant on va parler d'humanité, on va parler de ça, et puis on parlera de ça, et on en parlera comme ça, etc. etc. Je fais confiance en une sincérité humaine de création. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair tout ça, mais c'est très sincère. Tout ce qui est fait sur le plateau est très pur, on va dire. Enfin, et donc, j'ai envie de parler de ces, des fois, de ces difficultés à exprimer les choses, justement. Là, je... Donc, ça parle d'organique, ça parle d'humain. Pourquoi je parle de ça ?
Tu parlais de rythme, oui, notamment.
Et justement, oui, par rapport à la chute, à l'homme, à la chute des comédiens, à la chute des acteurs, des interprètes, la chute de l'homme, en fait, et comment ça chute et comment il se relève, parce qu'il se relève toujours, en fait, malgré les obstacles. J'aime bien travailler sur l'obstacle, sur l'empêchement, et comment on se sort de cet empêchement-là, comment on s'en sort, en fait, ou comment on s'en sort pas, mais j'aime bien travailler sur le mouvement de l'empêchement et de comment on lâche, comment le corps il lâche quelque chose, comment d'une posture on casse les codes aussi, on casse ses propres codes, on enlève son costume, on enlève son attitude, et comment j'ai beaucoup travaillé avec des prisonniers. J'ai fait des spectacles en maison d'arrêt et j'ai fait des spectacles aussi avec des adolescents psychotiques. Alors je dis ça parce que ça a quand même une importance par rapport à cet empêchement et la manière d'exprimer les choses, mais d'une autre, enfin avec le corps et comment on a dans des situations comme ça de fragilité, on peut exprimer certaines choses.
Alors, tu as évoqué le corps matière. Dans l'écriture contemporaine, l'idée de travailler le texte comme un matériau pour l'écriture dramaturgique est quelque chose qui commence à être très généralement partagé. Ce qui est plus frappant dans ton travail, c'est que plus que le texte, c'est la matière vocale que tu travailles, avec notamment une capacité à t'emparer des langues, pas nécessairement pour leur signification immédiate. Tous tes spectateurs, j'imagine, ne sont pas parfaitement anglophones, c'est possible. Tout n'est d'ailleurs pas nécessairement intégralement audible, puisque ça va se mêler à de la matière musicale très fortement. Donc, dans ces matières dont tu t'empares, il y a de la matière concrète, du matériau, il y a des corps matière qui sont autant de volume ou de rythme. On va peut-être parler un peu de danse aussi, du son. Et le son, c'est aussi bien de la parole que de la musique, que la chute d'un objet. Et puis, il y a de la matière mythologique ou imaginaire avec laquelle tu retravailles des motifs un peu obsédants. Ce qui est vraiment intéressant dans la façon dont tu en parles, c'est que ta dramaturgie n'est pas la dramaturgie d'une histoire qui se développe ou qui se développerait de façon évidente. Il y a quelque chose comme un lâcher-prise aussi de la grande histoire qui pourrait se raconter sur un plateau, du discours bien ficelé qui pourrait se raconter sur un plateau, mais plutôt une série de débauches. Alors, tu évoques ce jeu avec l'empêchement ou la contrainte. On sent beaucoup ce mouvement de réitération un peu forcené par moment pour essayer de forcer quelque chose qui pour autant ne vient pas, mais ce n'est pas la résolution qu'on cherche. En fait, c'est l'essai, ce qui est quand même quelque chose de très...
J'aime beaucoup me perdre, en fait, et perdre les gens. Ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais en fait, je trouve que c'est passionnant, en fait, de ne pas prendre les autoroutes et puis plutôt de prendre des chemins... dans la forêt et puis découvrir des choses ou pas, ou être... Enfin voilà, ce rapport à la langue, la langue étrangère, que ce soit l'allemand, parce qu'il y a de l'allemand, il y a de l'anglais, il y a de l'italien, enfin, il y a toutes les langues, en fait, dans mes spectacles, et d'être perdu, d'arriver dans un pays et de ne pas comprendre la langue, mais tout se passe ailleurs que dans la compréhension de la parole. Ça se passe dans les yeux, ça se passe dans les gestes, ça se passe dans autre chose, en fait. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Enfin, je trouve qu'on cherche toujours à mettre un sens aux choses, quoi. Et, et, Et en fait, c'est bien aussi d'accepter d'être perdu et d'accepter de d'accepter de pas comprendre et de comprendre autre chose que ce que comprennent tous les gens, quoi. C'est moi, des fois, dans des soirées, j'entends les gens parler et j'ai juste envie de crier, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais parce que je sors de je recule comme ça et puis il y a une sorte de brouillard et puis les gens s'écoutent. Les gens n'écoutent plus, ne regardent plus, ne prennent plus le temps d'écouter l'autre, de le regarder vraiment. Et des fois, j'ai juste envie de dire on arrête, quoi, ou je sais pas, de.
C'est le cri de la
Oui, peut-être, oui, ouais. C'est ça. Oui.
Ce qui est sûr, c'est que dans tes spectacles, il n'y a pas une accumulation de récits. Alors, les teasers sont à la fois un grand moment et très trompeur parce que ils donnent quelque chose d'une couleur, d'une musique ou d'une impression, et en même temps, évidemment, pas la matière même de ce que c'est que le spectacle. Je voulais parler des récits. Tes personnages et tes acteurs, parce que peut-être que le mot de personnage est impropre, parlent au plateau. Par moments, on a le sentiment qu'ils sont dans une adresse, dans les teasers en particulier, une adresse directe au public, et en réalité, c'est pas ça qui se joue. On n'a pas ce sentiment d'avoir une accumulation de récits qui viendraient s'enchaîner les uns aux autres, mais une parole qui a plutôt, au contraire, tendance à épurer, à élaguer quand même beaucoup. C'est-à-dire que tu disais qu'on s'y perd, ce lâcher prise, il est aussi très fortement celui du spectateur. Mm-hmm. Enfin, il vaut mieux. Mm-hmm. Puisqu'il se joue là autre chose que la tentative de retracer un parcours qui serait un parcours fléché, unique ou attendu à l'intérieur de tes spectacles. Alors, on pourrait peut-être parler un petit peu de Shakespeare, parce que on dit texte, oui, matière vocale, oui, mais Shakespeare quand même, Shakespeare toujours et un peu tout le temps. Alors, un petit moment peut-être sur Roses, histoire de... Oui.
Thank you.
I Love Roses, c'est Richard III, mais pas complètement ou pas uniquement. Et puis surtout, Richard III et Shakespeare, c'est pas que Roses, parce que c'est quelque chose qui ressurgit régulièrement dans ton travail, comme s'il n'était pas possible de pas s'y frotter à un moment ou à un autre, à chaque fois que tu mets des comédiens et de la matière sur le plateau, Shakespeare arrive. Pourquoi ?
Alors, pourquoi ? C'est comme je trouve que son écriture, enfin ça excusez-moi, je suis un peu
je sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
Dieu. Bien, je dirais pas ça, mais c'est une sorte d'écriture avec beaucoup de liberté. J'ai l'impression de pouvoir est très imagée et très physique, en fait. C'est une écriture physique. Et comme mon travail, il est physique, je m'y retrouve, en fait. Quand je lis Shakespeare, quand je le fais lire aux acteurs, même en anglais, la sonorité est organique, en fait. Et ça me touche. Je sais pas, depuis 20 ans que j'écoute, j'entends, je joue, je fais jouer du Shakespeare. Et là, pour Rose, j'ai voulu prendre ça comme une matière. Comme de la glaise, en fait. Si je m'attaquais à ce monstre, parce que c'est quand même un monstre, et Richard III, et Shakespeare, et je sais pas si j'ai réussi à quoi que ce soit, quoi, mais j'ai voulu m'attaquer à un texte. C'était la première fois que je prenais un texte, et un gros texte. J'aurais pu prendre un texte contemporain, peut-être plus simple, et j'ai voulu prendre ce texte-là. J'ai voulu entrer en combat, en fait, avec Shakespeare. Je me suis vraiment sentie comme quelqu'un qui combat le texte. Et comment... je n'ai pas voulu être sur la figure de Richard III, du personnage de Richard III. J'ai voulu être à côté, en fait. À côté de Richard III. Ne pas prendre les scènes qu'on a l'habitude de voir avec les Diane, ne pas être dans ce rapport avec les femmes, etc., mais plus le rapport plus familial, plus sous-jacent, plus. Et puis il y a quatre hommes qui interprètent Richard. Ça passe par des corps différents, des âges différents. J'ai pas voulu avoir la figure de Richard avec sa bosse. J'avais envie de m'amuser avec tout ça, en fait. Et que, voilà, j'ai voulu jouer de ça, en fait.
Oui, il est assez clair que le travail que tu fais n'est pas un travail de montage et de remontage, non. De démontage-remontage de la pièce de Shakespeare. Tu n'en fais pas une adaptation.
Non.
Tu ne la transposes pas, mais tu la modèles. On sent que tu étires certains endroits. Tu parlais de glaise tout à l'heure et c'est très juste dans l'image que ça en donne. Tu la déformes, tu l'aplatis, tu l'enroules et tu l'étires de tas de façons différentes pour parvenir à quelque chose comme une matière de plateau.
Oui.
Très multiforme, très informe, oui, par moment. Oui. Il faut quand même le dire. Tu parlais tout à l'heure de perdre ton spectateur. Alors, il ne s'y perd jamais complètement parce qu'il y a une résonance.
Il est quand même sur. Voilà. Je prends le texte dans sa continuité.
Dans sa continuité, mais ça joue sur une résonance avec ce drame dans lequel tu plonges par moments et dont tu t'extirpes très, très fortement par d'autres. Alors j'aimerais qu'on parle, venant de Shakespeare, un peu de poésie peut-être, et puis cette fois tirer beaucoup plus, alors moins du côté de la matière de théâtre que de la question du penser haut ou penser en théâtre, ce qui serait la matière même de cette pensée-là ou la texture de cette pensée qui s'expérimente ou qui s'essaye au plateau. Un mot qui revient beaucoup dans ce que je crois entendre de ce que tu dis ou de ce que tu écris, c'est le mot de rêverie. Et un autre mot qui revient, et qui revient beaucoup aussi dans la prose des commentateurs, c'est celle de poésie. Je crois que c'est à propos de Wonderful World que le... Alors, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est un critique qui parlait d'anticipation poétique ? J'aimerais que... C'est pas toi. J'aimerais que tu parles de ce que c'est que la poésie et du sens de la poésie dans ton travail.
Eh bien... Alors, c'est pareil, là. C'est comme Shakespeare, c'est comme dans mes valises où j'ai des films de Blier ou des frères Cohen ou de Tarkovsky. J'ai aussi beaucoup de poésie. J'ai beaucoup de poèmes dans mes valises. Depuis que je suis petite, je lis de la poésie. Je suis très sensible à la poésie. Et donc, je me suis toujours dit, depuis que j'ai, je sais pas moi, 8 ans, que je comprenais pas ce que je lisais, mais que c'était pas grave. Et c'est ressorti, en fait, au fur et à mesure que je fais des spectacles, cette phrase-là, elle m'est revenue, en fait. Et donc, c'est comment on est touché par... par une phrase, par une pensée contemplative, par une observation, une description, par une couleur, par, enfin, voilà, par des points de suspension. Enfin, il y a, c'est à la fois la poésie, voilà, dans un livre, mais c'est aussi la poésie à son rapport à l'image, à la peinture, à la rêverie, justement. Et ça, je trouve qu'on ne prend plus le temps de ça, en fait. J'ai l'impression.
Ce qui est vraiment intéressant dans ton travail, me semble-t-il, c'est que la poésie n'est pas un langage, mais quelque chose qui advient par ce qui se joue au plateau. Tu as parlé de suspension ou de point de suspension et de contemplation. Peut-être qu'il y a là quelque chose dans cette pensée qui se joue au plateau, qui est de l'ordre du suspens ou de la disponibilité à quelque chose. Mais ce que tu crées, c'est les conditions d'une écoute. Tu as parlé de la nécessité de s'écouter tout à l'heure. Les conditions d'une écoute ou les conditions d'un regard, un moment de suspens de la pensée jusqu'au suspens du langage dont on va apprécier la texture peut-être plus encore que la teneur par instant. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que cette suspension vient est créée sans cesse par le retour de ces chutes. Parce que voilà. Alors on va y revenir peut-être tout à l'heure pour parler de la veine comique de ton travail. Avant cela, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'occupation Bastille pour retirer un fil que nous avons déjà amorcé tout à l'heure sur le processus de création. L'occupation Bastille, c'est un temps long, là aussi. C'est plus d'un mois, hein, un mois et demi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette occupation Bastille ? Qu'est-ce qui diffère d'un moment de résidence peut-être plus habituel, plus court ?
Alors, c'était une proposition du Théâtre de la Bastille, une invitation à inventer quelque chose sur une période comme ça. Et donc j'ai pris ça comme habiter un théâtre, donc habiter à la fois habiter aussi la rue du théâtre, parce que j'aime bien être aussi dans la rue, j'aime bien que les gens qui passent voient qu'il y a un théâtre et il y a des choses qui s'y passent. Donc tous les jours j'avais décidé à 18h de faire histoire courte, donc préparer dans l'après-midi. Et ces sortes de performances, entre guillemets, c'était des images comme ça, des histoires, des corps. Et puis, c'était à la fois aussi 4 spectacles, les 4 spectacles que vous avez montrés là, Donc c'est à la fois le répertoire, parce que pour moi c'est important de garder, d'avoir un répertoire dans une compagnie et de continuer à construire cette maison et à inviter les gens à y rentrer. Et puis il y a eu aussi 15 jours de work in progress, c'est-à-dire un travail sur la prochaine création qui vient de sortir, mais voilà, avec une rencontre avec le public, des choses qu'on fait pas souvent en fait, où on ouvre la porte d'un temps et on parle avec le public. On a fait ça 8 fois, je crois, ou 10 fois. Être en fait dans des moments un petit peu fragiles. En fait, j'aime bien me sentir vivante, ne pas arriver dans un lieu, et puis c'est super hein, de diffuser sa création, tout ça, mais d'être dans un autre rapport au public aussi, et au lieu qui nous accueille, et au public, et aux gens qui nous environnent, et au quartier qui nous invite aussi. Enfin, voilà, c'est au-delà de faire une diffusion sur un plateau. Donc, j'ai aussi fait des retrouvailles avec plusieurs groupes avec qui j'avais travaillé. Donc, il y avait une quarantaine de personnes sur le plateau. Donc, j'aime beaucoup travailler autour du cœur aussi. Donc, c'est que des expériences comme ça qui se sont. C'est des fulgurances comme ça entre la diffusion, enfin c'est pas de la diffusion, c'est montrer le travail, et puis que les gens ils rentrent dans cet univers là et puis après ils nous retrouvent sur des ateliers. J'ai fait des ateliers open doors avec des gens sur plusieurs jours que j'ai réinvité après sur le working progress aux Éclats, et après on a fait un grand repas pour le public. Voilà, c'est occuper un théâtre, c'est habiter un théâtre d'une autre manière. Alors, à notre manière, mais d'être dans ce rapport de convivialité et de recherche et de se poser des questions, se parler, échanger avec le public, voilà, avoir les pleins feux comme ça et puis pouvoir échanger, en fait. C'est, pour moi, c'est le plus important aussi. On ne fait pas ça pour soi, en fait. Quand on fait des spectacles, ce n'est pas pour être tranquille dans sa loge en train de se regarder dans le miroir, quoi. C'est pour questionner en fait ce rapport au théâtre, parce qu'il y a ça aussi dans mes spectacles. C'est, je raconte des histoires, mais j'essaye d'évoquer le théâtre aussi, comment il se construit et comment on invente et voir aussi les coulisses de tout ça. Je montre ça en fait dans chaque création. On voit tout est à vue en fait.
Oui, tout est à vue. Alors, l'Occupation Bastille, tu le disais, ça a été un long moment aussi d'incubation de ton dernier spectacle, Aux Éclats. Oui. Alors là, on ne va rien en montrer du tout, parce que ce n'est pas le moment. En revanche, est-ce qu'on peut montrer, pas celui de Le In Situ, parce qu'on n'a pas le temps, mais celui qui s'appelle, qui semblait, tout semblait immobile, qui n'était pas si prévu. Je sais pas si.
Juste. C'est ça. Les micros, Jean-Philippe, c'est. Voilà, ça fonctionne. Le deuxième. Voilà, très bien.
Commençons par le commencement, le début. Il était une fois.
Thank you.
Bon, c'était trop tentant de terminer sur celui-là, parce que ce sont, au départ, c'est une conférence. N'en dévoilons pas trop, mais tout de même, c'est une conférence. Il y a des universitaires au plateau, et ça part quand même un peu en vrille. On va dire les choses comme ça. La parole se transforme assez rapidement en autre chose. Et en tout cas, la parole universitaire emprunte très rapidement d'autres chemins ou d'autres voies d'investigation. Alors, quelque chose évidemment, qu'on ne perçoit pas nécessairement aussi fortement que ça pourrait dans ces teasers, c'est que tes spectacles sont très drôles. On rit beaucoup, vraiment beaucoup, en particulier dans « Tout semblait immobile » et puis dans ton dernier spectacle, « Aux éclats », mais aussi par fulgurance ou par moment dans les autres. Donc cette veine comique est une constante importante dans ton travail. Alors, ça va être l'occasion de parler un petit peu de « Aux éclats » et de faire le rapport avec ce que tu as évoqué un petit peu tout à l'heure sur aussi une filiation ou une veine cinématographique. Mais bon, forcément, j'ai plein de questions qui vont tourner autour de cette question du comique. D'abord, qu'est-ce qui fait rire aux éclats? Est-ce que cet éclat de rire est une forme de la pensée, ou est-ce que le rire arrive au moment où on n'arrive plus à penser?
Alors, aux éclats. En fait, c'est vrai que par rapport à tous les spectacles, il y a toujours cette porte qui s'ouvre sur le burlesque ou sur une sorte de... j'aime beaucoup rire, en fait. Donc, je ne peux pas faire un spectacle où ça se casse pas la gueule, où ça ne fait pas un pied de nez à quelqu'un qui est dans une posture, etc. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu aller vers ce... C'est très bizarre, parce que quand on fait une création, on veut aller vers quelque chose... j'avais envie d'aller vers le rire, vers le plus que le rire, le comment on peut mourir de rire, mais est-ce que je vais y arriver? C'est des défis, en fait, qu'on se lance, parce que c'est compliqué quand même de parler de faire un spectacle, et est-ce que les gens ils vont rire, quoi? Et puis après, en fait, au fur et à mesure qu'on crée, on pense plus à ça, je pense plus à ça, en fait. J'invente. J'invente avec les éléments de cette création, avec les interprètes, et puis même si des fois ça rigole pas, même si c'est en distance, ce qui m'importe, c'est d'être dans le vivant, en fait, dans ce rapport à, je sais pas comment, il vient juste de sortir, c'est tout frais, quoi, donc j'ai du mal à dire ce qui peut provoquer. Il est à peine fini, même, je veux dire. Il est à peine fini pour moi. Il y a des choses que j'ai pas. Il y a des scènes qu'il faut que je rajoute dedans, tout ça. Excuse-moi, je suis un peu perdue là. Je suis un peu perdue parce que c'est tout frais et j'ai du mal à en parler.
Cinéma. Oui. On évoquait tes.
Oui, oui, oui. Ben, justement, sur ce spectacle-là, on a passé une semaine à regarder des films de Buster Keaton et les Monty Python. Voilà. On a regardé ces films-là, ou des scènes de... Il y a Buffet froid aussi. Enfin, voilà, du cinéma. Et Buster qui court, et il y a des gros cailloux qui roulent derrière lui, et Buster qui court, et il y a une maison qui lui tombe dessus, et il continue, et voilà, il est pas triste, et il est pas non plus, il éclate pas de rire, quoi. C'est ça, j'aime le rire malgré soi, en fait. Les choses qui arrivent malgré elles. Et par rapport à ce spectacle-là, il y a un peu de... comment on dit de la régression aussi. J'aime ça.
Oui, c'est assez régressif par moments. Une chose que tu as dite là et qui me paraît très, très juste pour caractériser ton travail, tu as reparlé de vivant. Alors pour inverser la formule connue de Bergson qui voit le rire comme la mécanique plaquée sur le vivant, dans ton travail, en fait, on a vraiment le sentiment d'assister exactement à l'inverse, c'est-à-dire que tu réinsères du vivant ou réintègres du vivant là où le geste, y compris le geste du comédien au plateau, peut être devenu mécanique. Et ça relance très fortement du mouvement et de la vie, là où ça grippe et là où ça contraint ce que tu évoquais tout à l'heure. Alors, ça fait déjà un moment que nous parlons. On peut peut-être ouvrir maintenant la parole et les questions à la salle.
Bonsoir. Je suis fasciné par la façon dont vous réussissez à transformer vos rêves en images. Et ma question serait, quel est le modèle économique qui est derrière? Est-ce qu'il y a des subventions, de l'argent public? Et si oui, comment se fait la procédure d'attribution de ces éventuels fonds publics, de ces bourses?
Merci. Oups. Alors oui, nous sommes la compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture, la DRAC, et par la région des Pays de la Loire, et est aidée par la ville d'Angers, qui est ma ville. Et nous avons aussi des coproductions pour chaque spectacle de lieux différents, voilà. Après, parce que aussi la compagnie a deux personnes en CDI, des intermittents, voilà. Donc deux personnes à l'administration, deux personnes en CDI à l'administration, et autrement c'est que des intermittents. En tout, avec quatre spectacles en tournée, on est une vingtaine. Donc voilà, c'est pas des grosses subventions, mais on a cette chance-là et cette chance aussi d'être intermittent. Voilà, je ne sais pas. Enfin, c'est des critères. Voilà, je sais pas quels sont les critères de choix par rapport au travail. Ça fait 20 ans en fait, j'ai une compagnie. Je l'ai montée en 99. Donc, j'ai été déconventionnée parce que pas à cette date, je ne sais plus, c'était 2010 ou 2012, pendant 4 ans, mais j'ai continué à créer. Des fois, je n'avais pas de salle de répétition, donc je travaillais en extérieur, justement, dans des parkings, tout ça. Voilà, j'ai cette chance-là d'être soutenue dans ma région pour faire ces spectacles-là et pour aussi payer les artistes, parce que pour moi c'est important aussi de payer les artistes sur toutes les répétitions. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est j'ai de la chance de réaliser mes rêves, oui, avec l'argent public. Mais qu'est-ce que je peux vous dire. Il y avait une question là.
Oui. Non, s'il vous plaît.
En même temps, définir le matériau. Oui, parce que vous avez cité les matériaux que vous utilisez dans vos spectacles, les corps, les décors, le son, la nature, le bruit. Mais le premier matériau, c'est vous. Alors, je voulais connaître votre matériau à vous. Est-ce que dans votre travail, vous accouchez votre enfance ou pas? C'est-à-dire votre enfance, votre parcours, votre adolescence, peut-être la cellule familiale aussi. Donc, est-ce que vous avez chuté aussi? Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Mais dans le débat, petit à petit, vous avez lâché un petit peu les mots, l'enfance, la condition humaine.
Mais le premier matériau, c'est vous. Et est-ce que, effectivement, parmi tous les matériaux que vous utilisez, vous n'introduisez pas votre propre matériau, votre parcours?
Mais est-ce que le public a besoin de savoir ça, en fait? Parce que c'est évident, quand on crée... Enfin, pour moi, je poétise... Oui, mais je poétise... certaines difficultés, voilà, ou certaines, ouais, son rapport à sa propre famille, bien sûr, parce que je parle beaucoup de famille, mais après, je voudrais que mon langage devienne universel et puisse toucher les gens sans qu'on sache forcément d'où je viens, même si c'est quand même, c'est vrai, important. C'est vrai que c'est important aussi. Non, j'ai pas eu d'accident de la vie, en fait. Je suis pas tombée par terre. Non. Mais qu'est-ce que la chute, en fait? Est-ce que c'est vraiment... Enfin, c'est l'observation autour de moi, ouais, de certaines personnes qui chutent.
Après, c'est intéressant dans ton travail de repérer. Quand tu as évoqué ton parcours tout à l'heure, et notamment la figure importante de Marina Abramović, à contrario, c'est vraiment intéressant de repérer dans ta façon de penser ou de proposer la performance. Je dirais que la violence est étonnamment absente, ou plus exactement, elle prend des formes très détournées, très différentes. Elle va passer par le modelage de la matière. Mais tu disais tout à l'heure, quand on chute, on se relève, et la chute est un prétexte à se relever. Quand la matière chute, elle est là. Tout à coup, elle investit, elle envahit le plateau. Donc tu racontes là quelque chose qui est éminemment vivant et éminemment actif.
Oui, oui. Oui, et puis, c'est vrai que je viens d'un milieu ouvrier. Pour moi, c'est important, c'est vrai, de le stipuler. De famille d'une mère qui a travaillé en usine, donc des récits en fait aussi voilà qui parcourent en fait toute mon enfance, et donc après voilà je viens de là, mais quand je crée je pense pas à ça, ça fait partie de moi en fait, comme la littérature ou le cinéma ou une balade dans la forêt, quoi. Enfin, voilà, ça fait partie de soi, en fait, son rapport à l'autre, son rapport à sa famille, son rapport à la culture, à la nourriture. Et tout ça, c'est de la nourriture, en fait. Toute notre expérience de vie et d'artiste et tout ça, c'est de la nourriture. Et c'est vrai que pour moi, c'est important de se relever.
Une dernière question. Alors, une dernière question, monsieur.
Merci. Bonsoir et merci pour tous vos spectacles. Que j'aime beaucoup. Et merci au Théâtre de la Bastille aussi, parce que c'était quand même assez exceptionnel d'avoir une sorte de rétrospective de vos anciens spectacles et jusqu'au plus récent. Finalement, c'est très difficile à faire pour un metteur en scène de, comme ça, remonter ses spectacles. Voilà. Et sinon, de vous écouter pendant la conférence, je voulais dire... l'humour est extrêmement important dans vos spectacles et beaucoup dans Tout semblait immobile. Il y a quand même la 30 minutes de spectacle où tout le monde est mort de rire. Et surtout les enfants. C'est-à-dire que c'est la première fois aussi... Ça fait plaisir de pouvoir rire à gorge déployée dans du théâtre contemporain, un peu comme avec Les Chiens de Navarre, par exemple. Mais c'est rare. Et puis, il y a des enfants aussi. Et ce que vous disiez sur les différents niveaux de lecture de vos spectacles... Je trouve qu'un enfant peut s'y retrouver, peut rêver à sa manière, à 8 ans, à 9 ans, il peut capter tout le spectacle à sa manière et pleurer, et se marrer et tout ça. Donc merci beaucoup. Et puis donc oui, sur la, sur votre travail, finalement, je trouve que Tout semble être immobile, c'est peut-être celui qui vous ressemble le moins dans le système Nathalie Béas, si je peux dire ainsi, puisqu'il y a beaucoup de textes, et la moitié du spectacle, c'est assez classique, finalement, puisqu'on a ce système de conférences. Et est-ce que ça, c'est un pied de nez, je dirais, pour démarrer le spectacle? Eh ben non, je vous ai bien eu... Vous n'allez pas voir du Nathalie Béas, même si ça en est après. Hein. Ou c'était votre façon à ce moment-là de faire la création, quoi.
J'essaye à chaque spectacle de faire des choses différentes, quoi, de pas être toujours dans la même, dans le même format. J'avais envie, de parler, quoi. Mais il y a plein de choses qui se passent pendant qu'ils parlent, en fait, et pas après. Pour moi, il y a pas deux parties, quoi. Puisque pendant qu'il parle, il y a quand même quelqu'un qui va faire pipi, qui revient avec la jupe dans la, voilà. Enfin, il y a plein de sous-textes, en fait, pendant. Et c'est vrai qu'on écoute la conférence, mais des fois on ne l'écoute pas. Je sais que, justement, il y a plein d'enfants qui n'écoutent pas la conférence et qui voient plein d'autres choses dans la première partie. Donc c'est aussi un spectacle très pictural, en fait, si on observe bien. Il y a cette femme qui s'éloigne et qui veut les étrangler pendant qu'ils continuent à parler. Enfin, voilà. Et c'est vrai que quand on est passionné par le théâtre ou par la littérature, etc., on écoute très bien ce qu'ils disent, ces deux personnages et ces trois personnages. Mais il y a des choses parallèles, pour moi, qui sont importantes.
Une dernière question. Dernière. Non, monsieur, s'il vous plaît, il faut attendre le micro.
Merci. Sur les images que l'on a vues, vous intitulez deux spectacles. L'un sur le bruit des arbres qui tombent, et l'autre sur Tout semblait immobile. Le fait que les images ne correspondent pas du tout au titre donné ne peut qu'inciter à rire. Oui. On attend de voir des arbres et il n'y en a pas. On s'attend à voir des gens. Une certaine immobilité et tout bouge. Et voilà. On est obligé d'en rire. Non. Quand on voit un spectacle comique, ce n'est pas immobile.
On va peut-être... Il peut y avoir une dernière question. Ah ben voilà.
Bonsoir, je suis assez intriguée quand vous dites que vous avez fait le conservatoire, parce que du coup je voulais savoir ce que vous en avez ressorti de cet enseignement qui peut être assez sur le texte, assez rigide, assez conventionnel, et qu'est-ce qui transparaît de ça dans vos spectacles, qu'est-ce qu'il en reste, comment vous avez pu vous épanouir aussi dans ce cadre-là, en fait. Voilà.
Alors, j'avais une prof au conservatoire. Alors, c'est pas conservatoire de Paris, hein, c'est un conservatoire de région. J'avais une prof qui était plutôt très intéressante. On a travaillé pendant un an le chœur antique. Et moi, ça m'a passionnée, en fait, ce travail d'être en cercle et puis de coryphée. Et puis Shakespeare. On a travaillé le chœur antique et surtout Shakespeare. Donc, oui. Mais après, c'est vrai qu'il me manquait des choses. J'ai quand même tenté les concours, hein, du TNS, de la rue Blanche. Enfin, ça s'appelait la rue Blanche. Et je ne les ai pas eus, mais heureusement, en fait. Non, mais c'est pour ça que quand je rencontre des étudiants ou en théâtre et tout, il y a d'autres chemins, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres chemins que les grandes écoles de théâtre. Et que c'est pas grave, en fait, si on n'a pas les grandes écoles de théâtre ou de danse. Il y a d'autres chemins qui sont très, très intéressants. Et j'ai travaillé 6 ans aussi dans la rue avec le groupe Zur. Donc j'ai fait des festivals de rue. Donc ce rapport aussi à la rue est quelque chose aussi assez puissant, ce rapport de proximité avec le public. C'est une école très, très intéressante. Ouais. Et donc, c'est toutes ces expériences-là, en fait. C'est la vie, hein, l'expérience. Et après, moi, je n'ai pas appris à mettre en scène. Je fais, en fait. Je ne sais pas si je réussis des choses, mais j'essaye, en fait. J'essaye avec des gens, des fidèles compagnons, de creuser mon chemin.
Merci beaucoup. Merci à toi, Nathalie, pour cet entretien. Alors, ce troisième entretien vient clore une trilogie qui a été un moment d'exploration de ce rapport entre la matière et la pensée. Et pour la suite, eh bien, on inventera après. Donc, nous vous tiendrons au courant. Emmanuel, tu voulais...
Oui, tout à fait. Et puis, moi, je voulais vous remercier toujours de votre participation, vous dire que cet entretien a été enregistré et que vous pourrez bientôt le retrouver sur la web TV de la BPI. Voilà. Et puis, surtout, en sortant, n'hésitez pas à prendre notre programme pour toutes les manifestations que nous proposons, principalement les lundis soirs, mais pas que, aussi... en cinéma, documentaire, et puis dans tout un tas de disciplines et de connaissances. Voilà, donc à très bientôt.